Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Vous êtes sur France Culture et vous le savez, dans cette série de Matière à penser, nous nous penchons sur la science-fiction et la science du futur, ou la médecine, qui est présente dans tous les films que nous regardons, ou les livres, et aujourd'hui, nous allons, comme point de départ, avoir Elephant Man de David Lynch. Une histoire que Laura Coppel, qui est critique d'art, va pouvoir nous détailler. Et puis Pierre Wolkenstein, qui est professeur de médecine, spécialiste de la maladie en question qui touche Elephant Man, va nous détailler le point de la science aujourd'hui.
Don't be frightened, it won't hurt you. It won't hurt you. You will feel the chill of horror. Yet this is not a horror story. You will feel the warmth of love. Yet this is not a love story. It is the shocking true story of a very real monster who was also a very real human being.
Ladies and gentlemen, the terrible Elephant Man.
Man's a complete idiot. Pray to God he's an idiot. But supposing he's an intelligent man trapped in some monstrous body.
Voilà, vous avez entendu quelques cris d'horreur devant la vision du monstre, entre guillemets, de l'homme, en fait, parce que c'est une histoire vraie. D'un monsieur qui s'appelait Merrick et qui est, je dirais, affublé de cette maladie dont nous allons discuter, qui est celle de la neurofibromateuse. Pour en parler, Laura Coppel, qui a été l'assistante de Claude Lanzmann, qui réalise des ciné-clubs dans beaucoup d'endroits et qui est passionnée de cinéma et qui vient de temps en temps à France Culture pour nous mettre sur la bonne voie. Nous avons le professeur Pierre Wolkenstein, professeur des universités, qui est à la faculté de médecine de Créteil, qui est doyen, qui plus est, donc s'occupe aussi du cinéma comme véhicule de l'enseignement. C'est une faculté assez connue, puisque nous avons eu plusieurs intervenants dans ce domaine, et qui est un des spécialistes français et international autour de cette maladie particulière qu'on appelle Elephant Man au cinéma, mais qui s'appelle la neurofibromateuse de Monsieur Recklinghausen, qui l'a découvert à la fin du 19e siècle, enfin qui a porté son nom parce qu'elle était connue bien sûr depuis plus tôt. Parlons un peu du film, Laura Coppel, qu'est-ce qui vous attire dans ce film de David Lynch?
Écoutez, c'est intéressant parce que vous avez passé d'un extrait de la bande-annonce. Donc la bande-annonce est toujours ce qui va essayer d'attirer le spectateur. Il y a plusieurs points qu'on pourra reprendre, mais ce qu'il faut dire tout simplement au départ, c'est juste que ce film est un pur chef-d'œuvre. Alors c'est un peu prétentieux de dire ça, mais pourquoi ? D'abord peut-être par le génie de la mise en scène de David Lynch et le fait que cette histoire, qui est donc, comme c'est dit dans la bande-annonce, vous venez de le rappeler, une histoire adaptée d'une histoire vraie, une histoire vraie d'un cas documenté photographiquement, et ça c'est, je pense, extrêmement important, c'est-à-dire comment est-ce que le regard va pouvoir changer à partir du moment où la photographie puis le cinéma vont arriver. Je crois qu'un des sujets du film, c'est ça.
Mais Laura Coppel, ce qui est formidable, je trouve, c'est la vraie photo de John Merrick ressemble incroyablement à tout le maquillage qui est fait du héros du film.
Alors, ça fait partie du génie du film, si je puis dire, c'est que effectivement le maquillage qui a été fait à partir d'un moulage qui avait été fait après la mort de John Merrick, de son visage extrêmement déformé. Et puis donc il y a ces photos qui sont accessibles, des photos qui le représentent comme différemment que la présentation de Malak, qui est une scène extrêmement importante dans le film, mais qui le représente nu puis habillé. Mais ce qui est formidable dans le film, c'est qu'effectivement, on a quelque chose qui est à la fois extrêmement documenté, donc très proche de la réalité, et en même temps, dans le même geste, quelque chose qui va aller ouvrir beaucoup plus loin, si je puis dire, qui va parler de peur primaire, de l'effroi, et de toutes les ramifications, à la fois pour celui qui regarde, mais aussi peut-être pour celui qui est regardé, des conséquences de cet effroi, comment il se construit. Et du coup aussi, le film parle de comment est-ce que, d'un côté, cet homme, qui est John Merrick, dans le film, et qui est présenté au départ comme un monstre de foire.
Un monstre de foire, puisqu'on va le présenter à la foire, comme ça se faisait beaucoup d'ailleurs à cette époque-là. Voilà. Les sœurs siamoises, les nains étaient présentés.
Donc ce film est à la fois extrêmement documenté, très précis, les images du London Hospital, on dirait qu'elles sont faites presque à partir de photographies. Et en même temps, dans le même geste, il démarre ce film par quelque chose qui est du fantasme, du rêve, de l'imagination, et il ne va cesser, par la mise en scène de David Lynch, dont on sait aussi que c'est un sujet qui est fondamental dans son œuvre, par l'image, par le son, par des rapprochements de contiguïté de choses étranges, tout ce qui fait ce moment particulier du développement industriel de l'Angleterre, la manière dont les machines vont peut-être prendre aussi une forme de représentation de ce que peut être une image mentale, par exemple. Comment est-ce que le film arrive, justement, à articuler à la fois quelque chose qui serait une représentation très précise d'un cas qui a existé, et, dans le même geste, ouvrir vers tout ce qui fait la complexité de ce qu'est un regard humain, avec ce qu'il peut avoir de froid, de pervers, ou au contraire d'humaniste, et de la façon qu'on a de sentir comment on est regardé, précisément quand on est, j'ai envie de dire, dans un état de différence extrême. Voilà.
Alors je trouve que le côté noir et blanc est assez extraordinaire, parce qu'il donne un côté esthétique doux, je veux dire une beauté à ce qui est théoriquement horrible.
Oui.
Qui va faire que finalement on va très rapidement, après un moment de quand même où on le montre pas tout de suite, on le montre de dos, on le montre comme ça, et puis finalement après on va le voir en plein visage et on va se rendre compte que c'est un humain, c'est un humain différent, mais que c'est un humain et que du coup on va être pris. Je crois, enfin, vous allez me dire, mais Laurent Coppel, mais je crois que ce côté esthétique du noir et blanc, enfin, je veux dire, réalité que ça donne, va faire qu'on va aimer ce personnage, qui en plus est un personnage doux, et qu'on va oublier cette difformité. Ça me fait penser à un autre film où les monstres sont les bons, qui est Frix. En particulier, ce thème-là est revenu pas mal dans le cinéma, qu'il faut pas s'attacher aux apparences, il faut s'attacher à la profondeur de l'être humain. Et je trouve que Elephant Man, c'est ça.
Mais d'ailleurs, Frix est cité de manière très très assumée dans la première séquence qui suit celle du rêve, donc la première séquence, disons, qui se passe dans la réalité du film, puisqu'on a ce médecin qui est dans cette foire, et il y a le panneau Freaks avec le même design, le même graphisme tel qu'il est dans le film de Todd Browning, Freaks, dont vous avez parlé. Et après, c'est vrai que ce Elephant Man,
même les personnages,
oui, même les personnages,
on retrouve les nains et tout ça, qui vont s'occuper de lui,
pour le
faire échapper,
qui vont lui permettre dans la deuxième partie du film où il va se retrouver, ce qui est aussi véridique d'ailleurs, ce voyage en Europe, à nouveau entraîné à être montré dans les foires, sauf que là, nous le voyons très différemment parce que nous savons déjà qui est véritablement l'homme John Merrick. On peut dire que le film, je reprends ce que vous dites, c'est, et vous parliez du noir et blanc, là aussi c'est intéressant, David Lynch a travaillé avec un directeur de la photographie qui s'appelle Freddy Francis, qui a réalisé beaucoup de films de série B, un peu d'horreur pour la Hammer, la fameuse société de production anglaise qui faisait Dracula, des choses comme ça. Et en même temps, la façon dont la lumière est travaillée, cet usage du cinémascope qui est ce format très allongé, le cinémascope et le noir et blanc, la façon dont tout est travaillé pour les l'ombre et la lumière, les circonvolutions des espaces quand il va chercher justement à le voir la première fois. Ce que j'ai dit tout à l'heure, cette manière de rendre comme ça ce côté extrêmement dur de ce moment de la révolution industrielle en Angleterre, etc. Tout contribue à faire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, pourquoi ce film est un chef-d'œuvre, parce que à travers la mise en scène, se déploie une multitude de pensées, de facteurs, d'interprétations qui s'articulent les unes aux autres. Tout ça aussi pour montrer, au fond, que ce que nous allons voir, c'est l'histoire du regard. Comment passer du regard, spectaculaire, hein, et puis qui rentre en compte aussi dans le regard du médecin. Hein. Il se demande à un moment, est-ce qu'il n'est pas le même que ce patron de baraque de foire qui utilise ce monstre pour se faire de l'argent, est-ce que lui n'utilise pas cet homme pour sa
propre gloire,
pour sa propre gloire, renommée, voilà. Il y a le regard clinique avec la présentation du malade qui est incroyable, il y a le regard pervers avec ce gardien de l'hôpital qui fait défiler
clandestinement
des gens pour attiser cette pulsion comme ça, scopique, qui va aussi jouer sur le désir, etc. Donc tout est très articulé, mais jamais démontré. Tout passe par la mise en scène, oui, par la splendeur.
Il y a une scène extraordinaire là où il y a un des participants à cette foire qui vient avec deux nanas qui commence à flirter avec devant le monstre, voilà. Comme excitant quoi.
Voilà, exactement. Donc il y a le regard humaniste, on va dire, qui est l'aboutissement du film. Et la dernière chose, c'est qu'on peut dire que ce film, c'est aussi la construction, la révélation du sujet.
Et j'ai envie de dire, pour aller dans votre sens, c'est que c'est la révélation du sujet différent de l'autre. Parce qu'on est en Angleterre, pays donc qui s'est répandu dans le globe entier, qui va faire des foires quand même, comme par exemple La femme aux tentottes, aussi, où il y a eu un film qui a été fait dessus, Kechiche, hein, je crois. Et donc toutes ces altérités qui ont toujours été, je veux dire, quand on faisait venir des Noirs d'Afrique au jardin d'acclimatation à Paris, quand on faisait venir des Indiens, je dirais, pour... Alors en même temps, il y a ce côté foire, qui est repoussant. Et puis on va voir que l'humanité va commencer à bouger et à vouloir respecter cet humain différent.
Oui, alors je pense qu'il y a aussi un autre personnage qui est extrêmement important. C'est le personnage interprété par Anne Bancroft, qui est donc une actrice, une grande actrice de théâtre dans le film, qui s'appelle Miss Kendall, qui est un peu la coqueluche de Londres, et on sait combien le théâtre à Londres est une chose fondamentale. Et effectivement, son rôle est extrêmement important parce que c'est la première, en lisant dans le journal une description de cet homme accueilli par le London Hospital, qui dit, d'une manière extrêmement élégante, « Je voudrais vraiment rencontrer ce gentleman ». Et c'est la première qui saisit quelque chose, on va dire, qui a à voir avec, d'une part, au fond, que le film pourrait aussi être le portrait d'un artiste comme quelque chose, comme un être qui soit d'une altérité telle qu'il se sent mis au banc. Et on peut dire que peut-être c'est ce qui a amené Lynch à filmer cette histoire de la manière dont il le fait. Mais aussi, ça va être par le biais de cette actrice et par le biais du spectacle, mais là, pas du spectacle de foire, du théâtre, c'est-à-dire de la représentation qu'il va pouvoir acquérir, ou en tout cas récupérer, quelque chose qu'il avait évidemment déjà, c'est-à-dire John Merrick, c'est-à-dire acquérir le sentiment d'être celui qu'il est, c'est-à-dire une personne humaine douée de la parole, de sensibilité.
Et parole qu'il va acquérir progressivement.
Qu'il avait déjà, mais qu'il cachait. J'avais peur de parler, dit-il à un moment donné.
Et donc. Et il va être acclamé dans ce théâtre, car elle va le présenter.
Il va être acclamé comme spectateur et non pas comme. Il ne va pas être sur la scène, il ne va pas être montré pour la première fois et la dernière. Il va être acclamé parce qu'il fait partie des spectateurs et qu'il peut venir voir un spectacle autre que lui.
Et là, il y a le jeu de la représentation, le théâtre étant la représentation. Lui, il a été en représentation, et là, il va effectivement être de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est lui qui voit et il devient un sujet à voir ce qui est le théâtre.
Voilà, et il y a aussi une autre scène, la première fois où il rencontre Miss Kendall, Anne Bancroft, où elle vient lui offrir, elle vient le voir, et elle lui offre Shakespeare. Évidemment, lui ne dit qu'il, jusqu'à présent, il lit essentiellement la Bible. Et elle lui fait lire un passage de Roméo et Juliette. Et elle lui dit, mais en fait, vous n'êtes pas du tout un homme éléphant, vous êtes Roméo. Et en jouant ce rôle, elle joue avec lui et elle finit la scène en l'embrassant sur la joue. La seule joue, il y a une partie du visage qui est extrêmement déformée, mais il reste. Et à partir de ce moment-là, elle lui rend, elle le réaccueille, si je puis dire, elle lui rend ce qu'il a été, ce qu'il est, c'est-à-dire un homme, tout simplement.
Pierre von Kleinstein, vous avez vu beaucoup de cas de neurofibromateuse. Celle-ci, elle est quand même assez forte, on va dire, assez puissante.
Alors d'abord, on a Recklinghausen, quand il a décrit la maladie, avait confondu plein de choses. Et la maladie qu'a John Merrick, d'ailleurs qui ne s'appelait pas John Merrick, mais Joseph Merrick, ce qui prouve que le descripteur, en tout cas Treves, avait une haute opinion de ses malades, puisqu'il les appelait avec un prénom qui n'était pas le leur, John Merrick. Donc c'est intéressant aussi que le voile du prénom masque aussi la vraie identité de Joseph Merrick. Donc John Merrick n'avait probablement pas de neurofibromatose, il avait probablement un syndrome proté.
Un syndrome proté qui est une
mosaïque d'une maladie génétique extrêmement rare, qui a été d'ailleurs démontrée sur les prélèvements, puisqu'on a conservé des pièces anatomiques de Joseph Merrick.
Une étude de l'ADN qui a été faite,
oui, et donc on a démontré qu'il avait une mutation dans le gène AKT et que il n'avait probablement pas de neurofibromatose. Alors c'est évidemment quelque chose qui est intéressant, puisque les patients même ne souhaitent pas être qualifiés d'éléphants quand ils ont une neurofibromatose, excluant John Merrick de leur panthéon, en fait. Donc ce qui est aussi un rejet par des gens qui sont atteints d'une maladie qui n'est pas la leur.
Alors, les deux sont quand même des maladies génétiques, d'une part.
Absolument.
Et qui donnent des déformations proches, on va dire.
Donc, concrètement, effectivement, ce qu'on voit dans le film, c'est-à-dire cette hypertrophie du visage, se voit dans la neurofibromatose, avec des neurofibromes plexiformes qui donnent une monstruosité. Monstruosité qui, est tellement étrange qu'elle est oubliée immédiatement quand on quitte le visage du monstre. C'est-à-dire que moi, je l'ai observé moi-même en consultation. Quand vous avez un patient qui a une déformation intense, vous n'arrivez pas à vous le représenter parce qu'il n'a pas l'humanité que vous espérez retrouver dans un visage. Et ça, c'est la grande force du film de Lynch. C'est effectivement d'avoir repris des moulages, puisqu'à l'époque, les dermatologues et les anatomistes faisaient des moulages de cire. Il y en a des très beaux d'ailleurs à Saint-Louis au musée de cire, qui sont vraiment des exemples, je dirais, à la fois de la description de l'histoire naturelle de la médecine, mais aussi des maladies. Et c'est vrai que la manière dont Lynch décrypte à la fois la maladie, mais aussi l'univers académique, moi, m'a frappé de manière intense, parce que Treves est un ambitieux extraordinaire. On voit les luttes de pouvoir.
On voit les luttes de pouvoir entre les différents médecins, oui.
Absolument. Donc il y a une face très, très bien vue de la part de Lynch. Et puis, j'ai trouvé également une différence clé entre le film de Lynch et les patients, c'est-à-dire il n'y a pas de rédemption. C'est-à-dire que pour un vrai patient, je ne dis pas que Joseph Merrick n'en est pas un, mais en tout cas, la représentation de Joseph Merrick dans le film est une représentation. Les patients, ils n'ont pas de rédemption, ils n'aiment pas être vus et personne n'aime les voir.
Thank you.
Voilà, nous sommes sur France Culture, nous écoutons la musique du film du jour qui est Elephant Man de David Lynch, une musique très très douce dans un climat un peu tendu hein, de cet homme vu et qui a du mal à être vu pour ce qu'il est, mais plutôt pour ce qu'il apparaît. C'est tout le problème du regard de l'apparence que nous discutons avec Laura Coppel, animatrice de Ciné-Club, férue de cinéma, assistante de Claude Lanzmann, et Pierre Frankenstein, qui est professeur des universités, spécialiste de la maladie ou des maladies de la peau, puisqu'il est dermatologue et qui connaît bien, par le centre de neurofibromatose, ce qui l'en est de cette affection.
France Culture, matière à penser, René Friedman.
Alors reprenons, s'il vous voulez bien, comment se manifeste cette maladie habituellement, chez l'enfant, plus tardivement, et comment vous la reconnaissez?
Alors, d'un point de vue caricatural, hein, le syndrome Pierre Proté, qui est celui d'Elephant Man, se caractérise par des difformités. C'est l'asymétrie corporelle, avec des tumeurs qui, dans ce contexte-là, sont décrits par Treves comme des fibromes, que nous, on appelle, dans la neurofibromatose, des neurofibromes, et qui sont liés à un dysfonctionnement du cycle cellulaire qui conduit à avoir des tumeurs essentiellement bénignes, et ce qui est d'ailleurs compliqué pour les patients à expliquer à l'extérieur, puisque ce qui fait peur, c'est le cancer, c'est pas la tumeur bénigne, et la tumeur bénigne a un impact en termes de fardeau qui est immense et qu'on voit extrêmement bien décrit dans le film. Alors, ce qui a évolué aujourd'hui, c'est que quand on prélève ces tumeurs, on peut avoir une idée très claire de la biologie, et de plus en plus, on voit émerger des traitements, puisque là, la conclusion de Treves dans un dialogue avec Elephant Man, c'est « vous ne pouvez rien pour moi ». Enfin, il y a un échange qui est extrêmement riche, parce que Elephant Man se demande ce qu'il fait là, dans un hôpital. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul, puisque tout le conseil d'administration, est-ce que nous sommes finalement, nous médecins...
On l'héberge,
il a un appartement. Voilà. Il est décrit, mais comme dans un zoo, effectivement. Et moi, j'ai connu ça à Saint-Louis, par exemple, où il y avait des lépreux qui étaient dans des appartements depuis les années 40, eh bien, qui sont en fait une survivance de tout ça. Et donc, John Merrick se demande ce qu'il fait là. Et aujourd'hui, il ne se demanderait pas ce qu'il fait là, puisque aujourd'hui, grâce à l'analyse des tissus, on a la possibilité de traiter ces maladies, ce grand groupe des neurofibromatoses. Dans le syndrome Proté, donc, c'est un dysfonctionnement de la voie AKT, et donc des médicaments qui sont les inhibiteurs de mTOR permettent de réduire le volume des tumeurs de manière assez efficace.
Oui, vous allez nous parler des nouveaux traitements que vous testez, d'ailleurs, Everolimus, entre autres, mais il y en a d'autres. Pour resituer, c'est une maladie, d'abord, génétique. Il y a une génétique dominante.
Absolument. Alors, la neurofibromatose de type 1, la maladie de von Recklinghausen, est une maladie autosomique dominante, c'est-à-dire que, dans l'immense majorité des cas, enfin, en tout cas, décrits au départ, l'un des deux parents est atteint et transmet à sa descendance la maladie. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas totalement vrai, puisque 50% sont des cas sporadiques, c'est-à-dire qu'ils sont issus de mutations, ce qui fait qu'effectivement, la moitié des familles n'ont aucun des deux parents atteints, ce qui d'ailleurs jette toujours un trouble, et qu'on voit d'ailleurs dans l'origine, dans le film, qui est extrêmement intéressante, qui est... D'où cela vient-il? Donc il y a cette espèce de croisement entre l'éléphant et la mère qui, je dirais pour moi, est une empreinte de la génétique dans la construction de Lynch.
Alors c'est chez l'enfant, ça se manifeste par des taches café au lait d'un certain volume.
Alors la neurofibromatose 1 se caractérise effectivement par des taches café au lait qui sont le signe. La marque de fabrique.
Mais et puis, pas une ou deux.
Donc, chacun
en
a.
Pas de panique,
puisque effectivement, 10% de la population a une tache café au lait. Donc, ne venez pas me voir en consultation demain. Ce n'est pas le sujet. Donc, plus de 5 millimètres disséminés sur le corps.
Et puis, avec des zones électives, peut-être
Alors, il y a effectivement des zones électives dans les plis, donc ce qu'on appelle les lentigines axillaires et inguinales. Et puis, parfois, d'emblée, des déformations qui surviennent donc dès la naissance et qui sont visibles comme à peu près identiques à celles d'Elephant Man, mais qui sont très rares, hein, c'est 15% des patients.
Mais comment est-ce qu'on comprend qu'il y a aussi des affections qui touchent les os longs, en particulier, qu'il y a des scolioses ou qu'il y a des autres altérations? D'ailleurs, dans le syndrome de Protée, donc, qu'on voit dans le film, il a une espèce
Ah oui, il a un gigantisme.
Il a un gigantisme d'un bras, c'est pas un éléphantiasis, parce qu'on pourrait aussi penser que ça c'est une maladie parasitaire qui peut toucher les membres, mais là c'est aussi une anomalie, orthopédique. Enfin.
Alors quand on fait des prélèvements sur ces os qui sont déformés, on tombe sur en fait de la tumeur. C'est-à-dire que tout ceci est lié à une perte de l'autre gène, hein, celui qui est ce qu'on appelle une mutation somatique. Donc finalement, même si les expressions sont très différentes en termes osseux, en termes cutanés ou en termes tumoraux, la physiopathologie est la même.
Alors, on est à peu près, je crois, 20 000 personnes, ou peut-être plus, qui sont atteintes d'une façon ou d'une autre par cette maladie génétique, donc qui est portée par le chromosome, la mutation,
ben, ouais, 17.
Qui est portée par le chromosome 17, et donc qui doivent, pour la plupart, affronter le regard. Puisque c'est, comme vous l'avez dit, Laura Coppel, et comme vous l'avez dit, sur Pierre Wolkenstein, sur l'analyse de ce film et votre pratique de dermatologue, c'est là où ça se passe, quoi. Quand c'est caché, encore ça va. Encore que maintenant, on se dénude quand même beaucoup. Mais le regard, il est quand même complètement, changé par cela. Et donc, on peut proposer un certain nombre de traitements, la plupart d'abord chirurgicaux.
Alors, d'abord, je commenterai sur le regard de l'autre, hein, puisqu'il y a une violence aujourd'hui des corps parfaits. Donc, pour le patient, la violence du corps parfait, c'est encore pire qu'il y a 20 ou 30 ans, hein, puisque aujourd'hui, nous n'avons pas le droit à la différence. Bon. Alors après, effectivement, ce qui était fait dans le temps ou dans un présent encore très actuel, c'est la chirurgie. C'est-à-dire qu'on a des techniques chirurgicales comme la destruction des tumeurs au laser. Mais on a été jusqu'à faire une greffe de face chez un patient atteint de neurofibromatose.
D'ailleurs, nous avons reçu ici même, et dans cette série d'émissions, il suffit, je vous renvoie les auditeurs à l'émission précédente où le professeur Lantieri est venu nous parler de cela. Le thème était Frankenstein, qui était une autre façon d'aborder aussi la question. Le film était Frankenstein, mais la réalisation de la greffe de face, qui a été réalisée plusieurs fois dans le monde, en particulier à Créteil pour la première importante de 80% du visage. Donc là, on est au maximum.
Absolument, c'est la chirurgie, de l'extrême. Hein. C'est-à-dire que c'est là, effectivement, là, on arrive à la limite de ce qu'on peut faire. Et puis une fois qu'on arrive à la limite de ce qu'on peut faire, il faut trouver autre chose. C'est-à-dire qu'on est dans la zone indécidable et progressivement, la zone indécidable devient décidée. C'est-à-dire qu'on a des solutions. Oui.
Alors, sans aller à l'extrême, qui peut toujours arriver, justement, parlez-nous un peu du laser. Ça veut dire quoi, le laser? C'est quoi?
Alors, c'est le laser est en fait une destruction physique, hein, des tumeurs. Donc, c'est un peu... On les brûle, hein, on les détruit, on les pulvérise. Mais vous avez bien compris que quand on brûle, on laisse des cicatrices. Et de manière très intéressante... les patients préfèrent des cicatrices qui sont explicables, c'est-à-dire c'est une cicatrice, alors on peut raconter des histoires autour d'une cicatrice, que vis-à-vis d'une lésion ou d'une tumeur qui nécessite toute une explication sur la maladie, sur son origine génétique et qui épuise les patients tant l'explication et la justification est leur quotidien. Donc aujourd'hui, on essaie de sortir de l'intervention chirurgicale en allant vers des thérapeutiques qu'on appelle ciblées qui sont aujourd'hui l'avenir dans ce type de maladie.
Alors, quelle est l'action de ces thérapeutiques ciblées? Ce qui se passe en dermatologie, où il y a beaucoup d'évolutions, en particulier, je pense aux mélanomes, hein, qui jusqu'à là, enfin, certains mélanomes n'avaient pas de traitement, et c'était la fin assurée assez rapidement. Aujourd'hui, ils semblent bénéficier quand même de thérapeutiques anti-cancer poussées. Est-ce qu'il y a un passage entre toute cette approche, et cette maladie dont nous verrons comment elle est organisée en France, et vous êtes un des promoteurs de ces centres de référence, nous en discuterons dans un instant. Mais d'abord, sur le plan thérapeutique.
Tout d'abord, dans le passé, on s'est trompé. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à m'y intéresser, on croyait à la thérapie génique, qui n'a pas été finalement l'avenir de la thérapeutique. Et puis vous avez raison de souligner que dans ma discipline, beaucoup de choses qui sont dérivées de la recherche sur le cancer sont applicables aux maladies rares. C'est le cas vraiment pour les neurofibromatoses. On est en train de tester des médicaments comme les inhibiteurs de MEK, qui sont utilisés, MEK étant une voie de signalisation qu'on souhaite corriger. Eh bien, ces médicaments étaient utilisés dans le mélanome et sont maintenant utilisés dans la neurofibromatose. Donc, il y a un transfert de la maladie fréquente vers la maladie rare, et souvent l'inverse aussi, de la maladie rare, qui parfois est plus simple à expliquer que la maladie fréquente complexe. Et donc, c'est une interaction et un aller-retour constant.
Et dans cette thérapeutique nouvelle, vous êtes à l'étape protocolaire, c'est-à-dire d'études, ou il y a déjà des démonstrations ?
Ah, il y a déjà des démonstrations, c'est-à-dire que ce qui est... Je ne pensais pas du vivant de ma vie professionnelle, et c'est ça qui est très émouvant quand vous avez une carrière qui commence un peu à durer, c'est de voir que finalement, à l'échelle d'une carrière, on peut voir se transformer la thérapeutique d'une maladie.
À qui le dites-vous ?
Donc effectivement, nous arrivons de manière assez spectaculaire à réduire les tumeurs, et pas seulement chez l'animal, hein, chez l'être humain et pas seulement chez l'éléphant.
Et comment, au point de vue sociétal, vous avez abordé les maladies rares en général, et particulièrement celle-ci puisque c'en est une, qu'est-ce qui a changé dans notre pays et peut-être ailleurs dans l'organisation de la prise en charge des maladies rares? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une maladie rare? Là, sors un peu de...
Non, mais je dirais qu'il y a trois questions dans votre question. La première, c'est qu'effectivement, au moins trois. Donc, la première, c'est que les maladies rares, c'est un seuil administratif, c'est une naissance sur 2000 ou une prévalence d'une sur 4000 personnes. Donc, en gros, on est dans la maladie rare vraiment rare. Ensuite, il faut les identifier. Donc, tout le jeu en France a été de surfer sur le plan maladies rares qui date maintenant d'il y a assez longtemps, il y a une quinzaine d'années, puisque c'était en 2004 qu'avait été inaugurée sa première version. Et ça a conduit au label d'un certain nombre de centres de référence qui étaient finalement reconnus pour leur expertise. Ces centres de référence ont des pseudopodes qui sont des centres de compétences qui permettent à tout patient en France de repérer l'endroit où leur maladie est prise en charge. Et donc, il y a des trajectoires de patients qui sont maintenant assez efficaces au niveau national.
C'est-à-dire que si on veut avoir un diagnostic en particulier, enfin savoir ce qu'on a, on va plutôt se tourner vers un centre de compétences qui est
le tissu régional.
Voilà, qui est le tissu régional, qui est proche
du patient,
du domicile. Lequel, s'il y a besoin, parce que c'est quelque chose d'un peu plus complexe,
référera au centre de référence national,
qui lui cumule toutes les données et permet un peu d'aider au traitement nouveau. Quelle est la différence entre une maladie rare et une maladie orpheline?
Alors généralement, les maladies rares sont orphelines puisqu'elles n'ont pas de recherche très très efficace et dédiée. Une maladie orpheline peut être fréquente, hein. Il y a des tas de maladies, je dirais que on pourrait dire que le mal de dos est une maladie orpheline, par exemple, puisque l'intérêt global n'y est pas. Donc effectivement, orphelins et rares ne sont pas tout à fait la même chose, mais la plupart des maladies rares sont orphelines de recherche efficace et de recherche avec moyens, puisque nous sommes quand même extrêmement contraints par les moyens.
Justement, est-ce que les centres de référence labellisés donc ont des moyens?
Ils ont eu des moyens, et progressivement, effectivement, dans la modification du service public, on est dans une pression budgétaire qui conduit effectivement à modifier totalement ces moyens initiaux qui avaient été une surprise, une élégante surprise de la part du gouvernement, puisqu'on a eu effectivement de quoi recruter du personnel dédié, de quoi diriger des travaux de recherche, et c'est de moins en moins le cas, puisque la pression, comme vous le savez, devient intense.
Et est-ce que, je suppose hein, que vous travaillez en multidisciplinaire, et en particulier sur le côté justement psychologique comment va vivre cette personne dans l'intégration de cette maladie, la transformation possible, est-ce que vous avez mis en place toute une aide?
Alors c'était le deuxième point que je souhaitais qu'on évoque et que vous aviez induit par votre question.
Pierre,
c'est qu'effectivement on a un vrai sujet sociétal, c'est-à-dire de faire assumer aux patients et à la société la visibilité des corps qui sont difformes. Donc ça, c'est un point clé. Donc nous avons effectivement une prise en charge psychologique. Nous développons des mesures pour contrer le fardeau de la maladie. Psychosocialement, il y a des soutiens qui sont développés. Et puis de l'autre côté, nous avons un engagement collectif avec l'association de malades fort dans un engagement de communication. C'est quelque chose auquel on a réfléchi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut montrer pour pouvoir, et c'est là où c'est intéressant, parce que la manière dont est montré le corps de John Merrick ou son être en foire, c'est le contraire de ce qu'on veut faire aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je souhaiterais que les patients sortent de l'anonymat sans être montrés comme des monstres. Et ça va être toute la complexité que nous sommes en train d'essayer d'échafauder avec l'association de patients.
Mais regardez déjà, oui, par exemple pour le cancer du sein, on a vu à un moment donné des affiches où des femmes se montraient avec un sein en moins. Pour faire bouger un peu ce que vous appeliez un peu cette dictature du corps parfait.
Ce qui est sorti moi de la vision à nouveau du film de Lynch, hein, c'est vraiment le côté bien pensant finalement, parce que la manière dont je vis moi ma relation avec les patients m'invite à penser qu'il n'y a pas de rédemption. Et je le redis une fois de plus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être légèrement agressif pour pouvoir s'imposer aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Donc les patients doivent se montrer, ça me paraît une évidence. Et une fois qu'ils sont sortis de la vision, ils sont oubliés. Donc ça doit être de manière répétée que cette communication doit se faire. Nous ne sommes pas parfaits.
Laura Coppel.
Oui, alors je comprends bien ce que vous dites en parlant de la rédemption dans le film. Mais je crois quand même que, vu les différents niveaux de lecture qu'on peut avoir, ce que vous dites se voit dans le film, c'est-à-dire qu'on apprend à voir. On apprend à... Et bon, là aussi, la façon dont la mise en scène de son apparition est décalée et la manière dont nous voyons aussi le regard changer, par exemple chez les infirmières qui s'occupent de lui, à partir du moment où elles le connaissent. Donc ça, ce que vous dites, finalement, je trouve que le film le donne à voir aussi. Et... Bon, moi, avant de voir le film, évidemment, je ne connaissais ni l'existence de John Merrick ou de Joseph Merrick, ni l'existence de ces maladies. Mais je n'ai vu les photos réelles du vrai Joseph Merrick qu'après avoir vu le film. Et quand je vois ces photos, je ne vois pas, je vois la déformation, mais je vois la personne que j'ai vue dans le film. Ça veut dire quoi ? C'est pas le vrai John Merrick, le vrai Joseph Merrick, puisqu'il y a la confusion des prénoms. Mais ça veut dire que je vois la personne. Et que, du coup, la déformation devient quelque chose de toujours impressionnant, mais qui ne masque plus la personne qui est derrière. Et je crois que le film, il fonctionne comme ça. Donc il est à la fois, il y a cette rédemption... qui en même temps est tempéré par la scène dont vous parliez, qui est une scène magnifique, où c'est John Merrick qui demande à Treves « Il y a une question que j'aimerais vous poser depuis longtemps. Est-ce que vous allez pouvoir me guérir ?» Et le médecin répond simplement « Non ». Et John Merrick répond « Oui, c'est bien ce que je me disais ». Donc il y a quand même le regard d'ailleurs de Treves, quand il est un soir dans son fauteuil, c'est un regard un peu médusé, quoi. C'est-à-dire qu'il est confronté justement au fait qu'il n'y aura pas de... Ce que vous venez d'expliquer qui est très différent aujourd'hui, puisqu'il y a tout un arsenal thérapeutique. Donc je trouve que peut-être justement dans cette réflexion qu'apporte le film sur le regard que nous portons, bah, en tout cas, je sais que ça a changé le mien. Voilà.
Mais du début du film à la fin du film, effectivement, le premier passage, c'est plutôt le recul,
voilà.
Hein, c'est-à-dire la vision superficielle, et puis ensuite, c'est ça.
Ça va dans le sens, on l'oublie. Voilà. Ça va dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut voir, pas montrer au sens, mais il faut qu'on, voilà, en voyant,
je crois que le film montre que c'est possible de voir.
Voilà.
Mais mon expérience me dit que c'est difficile de voir. C'est-à-dire que l'effort qu'il faut pour une société, pour voir ces monstres, pour voir les gens, c'est vraiment un effort d'engagement immense.
Est-ce que, en tant que doyen, vous pensez qu'il y a suffisamment qui est fait dans cette évolution pour les étudiants, les futurs médecins? Parce que déjà, au moins que ce regard de la blouse blanche pénètre la société.
Alors moi, je suis un grand partisan de la multidisciplinarité. Donc c'est, pour moi, on ne peut pas être médecin si on n'est pas humaniste au sens, je dirais, dilettantisme et éclectisme. Donc il faut savoir s'ouvrir. Le cinéma est une manière de porter ça. La lecture en est une autre, la philosophie aussi. Et je suis assez épaté par les jeunes apprentis ou les jeunes collègues qui s'ouvrent à d'autres choses et qui probablement puisent effectivement dans la culture humaine une manière d'exercer différemment. Dans le film, l'académique est montré sous son plus vilain aspect. Les jeunes générations me laissent à penser qu'ils seront un peu meilleurs que nous quand même.
Mais est-ce que vous pensez pas que, oui, c'est la place des humanités, comme on dit, c'est-à-dire dans le rôle du médecin, peut-être de rebalancer cette hyper-technicité qui a été à un moment donné nécessaire, et qui est toujours nécessaire d'ailleurs pour progresser, pour faire les nouveaux médicaments, pour faire les nouvelles thérapeutiques, mais qui en même temps doit s'équilibrer. Il ne doit pas y avoir un bras plus long que l'autre, comme dans la maladie. On doit s'équilibrer pour apporter de l'humanité et de la science.
Moi, j'ai toujours trouvé, en tout cas, les gens que j'ai rencontrés qui étaient de grands scientifiques, étaient de grands littéraires ou de grands peintres ou de grands musiciens. Donc je pense qu'effectivement, l'un ne va pas sans l'autre.
Mais je le vois toutes les semaines, quand nous enregistrons cette émission, il y a effectivement des médecins qui ont une certaine ouverture et des critiques qui ont un point de vue humain et maintenant médical, puisque tout diffuse et tout est pris avec passion, tant mieux. Voilà, vous êtes donc sur France Culture, vous venez d'écouter avec Laura Coppel et Pierre Wolkenstein toute une réflexion autour du film Elephant Man et autour de cette maladie dermatologique qui est donc la maladie de Recklinghausen ou une autre apparente, qui est une maladie génétique, ce qui vous permettra de réfléchir sur le regard que l'on porte sur les êtres humains différents. Voilà, nous avons fait cette émission grâce à Catherine Donnet, Sandrine Chaperon, Gilles Blanchard, Cédric Châtelus et Justine Wilde. C'est en même temps cette dernière émission clôt la série sur la science-fiction à la science du futur que vous avez pu écouter toutes les semaines et que vous pourrez réécouter autant que vous le voulez sur le site internet et le podcast qui est là pour vous permettre de recreuser ces thèmes fondamentaux. Et lundi prochain, vous retrouverez Matière à penser avec Antoine Garapon.